Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus sur Canal Académie. C'est un archéologue que nous recevons aujourd'hui pour parler de notre rapport aux ruines, professeur émérite des universités, ancien directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Alain Schnapp vient d'y consacrer une somme monumentale. Ce n'est pas un guide des vestiges du monde entier, même si beaucoup de sites sont évoqués, non. Il propose plutôt une histoire de la pensée des ruines, de notre rapport aux ruines à travers différentes civilisations. Et c'est passionnant. Ce livre a reçu le prix Jacques de Fouché de l'Académie française. Bonjour Alain Schnapp.
Bonjour et merci de cette invitation.
Avec plaisir. Alors, vous avez déjà beaucoup écrit sur les ruines, mais ce livre-ci prend des allures de somme assez monumentale. C'est presque le livre de votre vie.
Oui, on peut le dire. Il a réclamé une quinzaine d'années d'efforts et il s'est fait en s'écrivant. C'est-à-dire, quand vous projetez d'écrire un livre sur un tel sujet, vous pensez d'abord à un essai, puis cet essai devient un livre. Et quand vous le voyez grossir et grossir comme ça, vous vous dites: arriverai-je un jour à la fin ? Je suis bien heureux d'y être arrivé, ce qui explique aussi la structure du livre, c'est-à-dire la structure comparative des différentes civilisations, et mon arrêt au XVIIIe siècle, à un moment où, avec les Lumières, le concept des ruines devient général et accepté.
Alors, comme souvent, tout commence dans l'Orient ancien, et c'est là qu'au troisième millénaire avant notre ère, vous décelez les premières tentatives de maîtriser les ruines, de contrôler la mémoire de ces monuments. Quelles sont ces traces ?
Ce sont les pierres des Égyptiens et les briques des Mésopotamiens. Les sociétés égyptiennes et mésopotamiennes ont en commun cette idée de la magnificence des rois et du pont que ces rois représente entre l'humanité et les dieux. Et donc, pour être un bon roi, il faut être pieux. Et la piété, c'est le respect du passé, mais qui se décline de façon très différente, parce que les techniques des Égyptiens reposent sur la pierre et l'inscription, et les techniques des Mésopotamiens reposent sur la brique et les tablettes ou les briques de fondation. Donc, leur vision du temps qui passe, leur vision du contact entre le passé et le présent est très différente.
Cette vision s'accompagne de mots. Vous dites qu'il ne peut pas y avoir cette pensée des ruines sans écriture, finalement.
Alors, une pensée des ruines constituée réclame effectivement des textes. Mais j'ai essayé de montrer dans l'introduction à mon ouvrage que les ruines n'étaient pas seulement l'apanage des sociétés lettrées et que, de façon plus générale, chaque société, même les plus démunies de notre point de vue d'orientaux ou d'occidentaux, a besoin de liens avec le temps. Et Claude Lévi-Strauss l'a très bien vu en analysant des pierres ou des bois sculptés d'Australie qui sont autant de réminiscences des générations disparues et que chaque génération transmet à l'autre. Donc c'est le début non pas d'une pensée des ruines, mais d'une présence matérielle du passé dans des sociétés qui n'ont même pas un habitat fixe. Donc je fais peut-être un usage de la ruine qui pourrait choquer un professeur de littérature, puisque pour moi la ruine commence avec le plus petit débris et se déploie avec la plus grande des pyramides ou le plus grand des palais. Mais dans cette vision extensive de la ruine, il y a pour moi une volonté de rechercher les comparandas, ce qui peut être comparé. Dans les langues d'Occident, nous avons le terme ruine, qui vient de ruo, Ruo, c'est quelque chose qui se défait, quelque chose qui se délite. Et à ce terme, que l'on retrouve en grec d'ailleurs avec ereipia, les choses qui sont abîmées, s'oppose un autre mot très courant, proche et en même temps différent, les vestiges, vestigia. Et ce mot se rapporte primitivement dans le vocabulaire latin, comme dans le monde grec ou dans d'autres civilisations, à des empreintes. En grec, on dit ikné. Les ikneutes, c'est ceux qui chassent d'ailleurs, les traces, les chasseurs. Et donc, la première ruine, c'est la trace d'un homme sur le sol. Et rappelez-vous l'expédition d'Apollo sur la Lune et la trace du pas du cosmonaute. Bien, c'est un peu cela. C'est-à-dire que la ruine n'existe pas en soi. Elle est le produit d'une attention que la société ou que les sociétés lui portent. Pour établir que quelque chose est une ruine, il faut un regard. Parce que sinon, je dirais, tout est ruine. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous fabrique un environnement qui est lui-même plein des traces du passé. Des traces du passé immédiat. Les objets que l'on perd, les objets que l'on jette à la surface du sol. Et d'un passé beaucoup plus lointain, qui est celui de la surrection des surfaces sur lesquelles les hommes ont marché. J'entends par surrection le fait que chaque génération crée un petit peu plus de débris, et ces débris constituent le niveau sur lequel le contemporain vit. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les tels, du mot arabe atlal, qui signifie aussi les ruines. Et dans le Proche-Orient ancien, quand vous vous promenez en Syrie ou en Irak, où malheureusement on ne peut plus guère aller aujourd'hui, vous voyez ces énormes surrections, ces buts qui sont les buts des villes du passé.
Dans ces temps anciens, notamment pour ce qui concerne la Mésopotamie, comment sont considérés les monuments de briques qui se délitent? Quelles pensées surgissent à ce moment-là?
Eh bien, pour les souverains mésopotamiens, il est clair que les palais qu'ils font édifier à grands frais par l'immense armée d'ouvriers et d'esclaves ne vont pas durer. Donc, pour leur donner une durabilité, ils portent sur des tablettes, elles-mêmes conservées dans des bibliothèques ou dans des réserves, et surtout sur des briques inscrites qu'ils enfoncent dans le sol. Les briques de fondation. Et j'ai été très étonné moi-même quand, avec plusieurs collègues, il y a une vingtaine d'années, nous avons créé la Maison de l'archéologie à Nanterre, entre Nanterre et Paris. Eh bien, l'architecte nous a dit « Je vais organiser la cérémonie de la première pierre ». Les Mésopotamiens utilisaient la première brique. Et cette brique, elle s'adressait au futur. Et nous avons plusieurs exemplaires de ces briques qui disent « Qui que tu sois, si tu me découvres, honore-moi, respecte-moi, rappelle-toi des miens qui ont disparu. Si tu ne le fais pas, tu seras maudit, et tes enfants aussi. » Donc, il y a un culte des ancêtres à travers les vestiges matériels. Et donc, les grands rois de Mésopotamie, quand ils veulent organiser des fêtes, quand ils veulent remettre un certain ordre politique, ils opèrent un certain nombre d'actions, ils projettent un certain nombre d'actions, et en même temps, ils vont creuser le sol pour trouver les briquetages des souverains ou des princes qui les ont précédés. Et on voit dans des inscriptions de très anciens rois sumériens ou acadiens des mentions du genre « Je suis un souverain pieux, j'ai reconnu les traces de mes prédécesseurs et même je suis allé si loin dans les archives du sol que j'ai trouvé le briquetage d'un temple que mes prédécesseurs n'avaient pas été capables de trouver. » Donc il y a une concurrence dans la dimension antiquaire. Et elle va jusqu'à ce fait que, par exemple, Assurbanipal, le fameux Assurbanipal, l'Akkadien, énonce « J'ai étudié avec les scribes. Je suis aussi savant qu'eux. Je peux déchiffrer les inscriptions que personne ne comprend. » Cela nous donne une idée de la concurrence pour la conquête du passé et le contrôle du passé qui existe entre les souverains.
Et ça, on le voit chez les Égyptiens, par exemple, où on a cherché à détruire la mémoire de certains souverains.
Voilà, donc dans le monde égyptien, ce sont les inscriptions monumentales qui sont
dans le paysage,
dans les palais, dans les temples et sur les pyramides parfois, et qui énoncent l'histoire et le désir des souverains de rappeler qu'ils ont honoré leurs prédécesseurs. Mais comme vous le soulignez, s'il y a une révolution de palais, un remplacement dynastique, alors la méthode la plus simple n'est pas de détruire ces monuments immenses, mais d'araser les inscriptions et de les remplacer par d'autres. Tutankhamon, par exemple. Oui.
Dans la culture juive, il y a un rapport particulier aux ruines qui est pensé comme une sorte de punition divine, de calamité. C'est très présent dans les textes bibliques.
Voilà, donc d'une certaine façon, la vision juive ancienne du passé est influencée par la Mésopotamie, par la concurrence, en quelque sorte, entre le palais de Jérusalem, le palais de Salomon, dont la splendeur surpasse celle de ses prédécesseurs. Mais la catastrophe est vite arrivée. Dieu a abandonné Israël et Jérusalem a été détruite. Et de cette destruction, vécue comme une catastrophe, les rabbins ou les doctes d'Israël garderont l'idée que les ruines, c'est le rappel de l'impiété, et que donc il faut se tenir éloigné des ruines. On ne pourra en quelque sorte reconquérir les ruines que le jour où le temple sera reconstruit. Il sera reconstruit, mais il ne sera pas détruit seulement par les Mésopotamiens, mais il sera détruit aussi par les Romains. Et donc toute la vision juive des ruines, la vision biblique, est liée à cette idée d'une perte immense dont le vocabulaire, il suffit de lire Isaïe, est directement tiré de la déconsécration des villes mésopotamiennes. Parce que quand une ville mésopotamienne s'écroule, quand elle se délite, alors les tablettes nous disent « Le vent se mit à souffler, les eaux à monter, plus rien ne poussait à la surface du sol, les femmes n'étaient plus prégnantes, les hommes ne les honoraient plus, et les dieux avaient quitté la ville. »
Cette mentalité perdure encore aujourd'hui quand on pense au mur des Lamentations, par exemple. Nous allons maintenant passer au monde gréco-romain. Vous êtes un fin connaisseur du monde grec. Est-ce que le rapport aux ruines évolue à ce moment-là et comment ?
Oui, parce que la vision mésopotamienne ou la vision égyptienne des ruines est liée à la puissance de l'Empire, à la splendeur des monuments ou de leur mémoire transmise par les inscriptions. Dans le monde gréco-romain, l'acte fondateur est aussi lié à la ville, mais c'est celui non pas d'une construction, mais de la destruction de Troie, qui amène toutes sortes de bouleversements. On considère que les Troyens fugitifs vont fonder Rome. Et Rome, en quelque sorte, rayonnera comme une nouvelle Troie. Mais ce rayonnement aura un prix. Et la destruction de Carthage, par exemple, fera penser au général romain Scipion que peut-être un jour, cette cité dont rien ne restera, sera le modèle d'une destruction future qui touchera celle de Rome. Donc la vision de Troie surplombe le monde gréco-romain. Elle est déclinée par les Grecs d'une façon différente des Romains. Les Grecs voient dans les vestiges du passé les traces d'une longue histoire qu'ils ne peuvent interpréter, puisqu'ils disent eux-mêmes que quand ils fouillent le sol, ils trouvent parfois des inscriptions, mais elles sont illisibles. Et d'ailleurs, il y a un épisode fameux dans lequel les Grecs découvrent des tablettes et se disent « ces tablettes, le seul qui peut les lire, c'est les pharaons ». Donc on les envoie au pharaon pour demander si un prêtre peut les déchiffrer. Et le prêtre fait semblant de les déchiffrer et donne un texte absolument macaronique, qui n'a rien à voir, parce que c'était probablement des tablettes en linéaire B que plus personne n'était capable de déchiffrer en Grèce au 6e, 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc les Grecs, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître, ils fondent leur vision du passé sur une certaine rupture qui exprime très bien l'Iliade et en partie l'Odyssée, celle des grandes cités du passé que la guerre a précipitées dans la destruction. Mais inversement, les Grecs cherchent à disposer d'une doctrine des ruines qui leur permet de faire face, je dirais, aux destructions et aux crises qu'ils traversent. Et Thucydide, donc en pleine période classique, Thucydide aura cette métaphore qui illustre le sentiment du rapport entre le temps qui passe et le passé et le futur. Il dit, si un jour, dans des centaines d'années, quelqu'un observe Athènes et Sparte, il aura l'impression que Sparte était un pays de rien du tout, parce qu'il n'y a pas de monuments, alors qu'Athènes, avec son acropole, est la plus riche en monuments. Et la réflexion de Thucydide est de dire, on ne doit pas seulement écrire l'histoire sur une première impression, mais réfléchir de façon critique à ce que l'on observe. Et donc cette idée de projeter les ruines du passé dans le futur, cela fait vraiment cela constitue une coupure épistémologique qui va permettre de penser les ruines de façon différenciée. Et il y a une deuxième caractéristique de la vision grecque du passé qui est celle de le développement à travers le temps de la conscience de l'effritement des choses. On le trouve dans une remarque de Pausanias, le grand géographe de la Grèce, qui décrit tous les monuments qu'à son époque, l'époque romaine, on pouvait observer en Grèce. Pausanias dit quelque part, il est quand même bien étrange que les Grecs, qui ont tellement écrit sur les pyramides, tellement écrit sur Babylone et sur Ninive, ne disent plus absolument rien des sites qu'on peut observer en Grèce propre, comme Mycène et quelques autres. Donc il y a cette conscience qu'il y a les ruines de soi et les ruines des autres, et que les Grecs, dans leur volonté ethnologique et comparatiste, regardent vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur.
La poésie joue aussi un grand rôle.
Absolument. Alors, il y a une poétique des ruines déjà visible dans les tablettes de destruction babylonienne, mais dans le monde grec, cette poétique des ruines s'envole. Elle s'envole parce qu'il y a une concurrence qui existait déjà dans l'Égypte ancienne, mais beaucoup plus nette dans le monde grec classique, entre les artisans, les architectes qui érigent de beaux monuments et qui sculptent de belles splendides sculptures, et puis les poètes, comme Pindare, et qui dit « Je ne suis pas un poète. Je ne fabrique pas des statues qui restent enracinées sur le sol. Je fabrique des mots, et mes mots courent d'une bouche à l'autre comme une chanson portée par le vent. » Donc l'idée de la concurrence des arts, du rapport entre le thésauros, c'est un petit sanctuaire, notamment les sanctuaires de Delphes, qui renvoie à ces constructeurs qui font ériger le sanctuaire en l'honneur de leur pays, de leur cité, et pour leur gloire. Mais le thésauros aussi, dans les propres poésies de Pindare, c'est le thésauros hymnon, le trésor des hymnes, c'est-à-dire les mots qui sont ouvrés comme des pierres et dont l'agencement donne une force au poème qui lui permettra de transcender la décadence des choses.
Nous arrivons au monde romain et dans notre imaginaire à tous, nous avons en tête ces images de ruines sur le forum. Mais eux, dans l'Antiquité, quel message voulaient-ils laisser pour le futur ?
Clairement, les empereurs, et avant eux même les hommes de la République, veulent laisser des signaux. Et ils ont hérité des Grecs cette idée de l'ordre de la cité, l'ornatus. L'ornatus, c'est ce qui la part, c'est ce qui la rend vivable. Et cet ornatus, c'est celui du moment, mais il doit prendre en compte le passé et respecter les monuments. Parce qu'une cité dont la moitié des monuments sont détruits n'est plus une cité. C'est une cité menacée par la barbarie. Donc, les architectes et les empereurs songent à restaurer. Et par exemple, dans l'histoire d'Auguste, quand Auguste parle de ses activités, il donne toute la liste des monuments qu'il a construits ou restaurés. Et les Romains développent une théorie de la restauration, héritée de ce que les Grecs appellent la thérapeia, le soin que l'on donne aux monuments, qui consiste à les protéger, leur redonner une charge symbolique, et en même temps à en ériger de nouveau. Et donc, cette idée de l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, elle parcourt toute la civilisation romaine, mais son apex est celui du Bas-Empire, quand les souverains découvrent que les ruines occupent plus de place que les monuments intacts. Alors, on a ces fameuses lettres de Cassiodore qui élaborent toute une théorie des ruines en disant « il faut être prudent, il ne faut pas démolir, il faut restaurer et il faut mêler l'ancien et le nouveau ».
C'est à ce moment-là qu'apparaissent les fondements d'une pensée plus moderne, de notre pensée des ruines.
Oui, enfin, par certains côtés, l'idée de la thérapeia, l'idée de la restauration, le sentiment que la ville est un lieu où s'expriment des valeurs collectives, tout ça, c'est hérité du monde grec. On ne trouve pas ça dans le monde mésopotamien, par exemple. Et cela constitue une nouvelle doctrine qui se développe au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, mais que, d'une certaine façon, la chute de l'Empire va empêcher de prospérer. Et
il y a une sorte de parenthèse.
Voilà, et entre ce qu'on a appelé après le Moyen-Âge, c'est-à-dire le remplacement progressif de l'Empire par les royaumes barbares, entre guillemets, va amener à une autre définition du temps et de ses rapports avec les hommes du présent.
À quel moment est-ce qu'on renoue avec cette tradition ? Est-ce que c'est à la Renaissance ou déjà un peu auparavant ?
À la Renaissance, bien sûr, il y a un engouement tel pour l'Antiquité que cela mérite un traitement à part. Mais on trouve déjà chez un certain nombre, d'abord chez les pères de l'Église, une réflexion autour des lieux qu'il faut protéger et sur la réutilisation des vestiges païens. Il y a par exemple une très belle prière qui est une prière sur les vases païens que l'on consacre pour les utiliser dans une église. Donc en quelque sorte, par cette prière, on va évacuer le paganisme et recommencer à frais nouveaux. Et un certain nombre d'ailleurs de monastères sont établis sur les ruines d'anciennes constructions romaines et les pères abbés et les constructeurs en tirent orgueil. Savoir réutiliser ces pierres, construire une abbaye qui soit digne de ce qu'auraient pu faire ces architectes et ces maçons romains. Donc ça, c'est une des bases, un des piliers du rapport de l'époque médiévale avec les ruines et les ruines antiques en particulier. Mais ça peut aussi aller plus loin dans les toutes premières collections, dans la description des objets extraordinaires qu'on peut trouver sur les sites antiques et même dans des représentations figurées comme les merveilleuses fresques de Maso di Banco qui représentent le forum romain et le pape et l'empereur en train de fouiller dans le forum romain et en quelque sorte de séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a un très joli texte médiéval qui dit qu'il n'est pas défendu de lire les textes des païens, mais qu'il faut soigneusement se laver les mains quand on a tourné les pages de ces livres hérétiques. Donc, certains clercs, il y a...
Le rapport est ambigu.
Le rapport est ambigu, il est parfois de la volonté qu'on trouve au 5e ou 6e siècle, à Byzance en particulier, de détruire les idoles, hein, et qu'on le retrouvera ensuite d'ailleurs dans l'histoire du christianisme. Mais en même temps, il subsiste des clercs, et parmi eux, l'archevêque de Tours, Hildebert de Lavardin, au XIe siècle, début du XIIe, qui est l'un des tout premiers à expliquer la légitimité des ruines. Il cherche à construire une théorie des ruines qui permet de les remployer sans consentir à l'avènement d'un nouveau paganisme. Et donc ce filon, se tenir sur la crête entre la réception des œuvres antiques et la reconsécration de sites antiques, c'est vraiment un des grands problèmes des XIIe, XIIIe siècles. Mais avec la ce qu'on appelle la Renaissance ottonienne, avec la diffusion d'un modèle théologique un peu différent dans les diverses provinces de l'Europe, on voit surgir ou ressurgir des influences romaines dans l'art médiéval. Et donc les modèles que l'on trouve, notamment dans les églises à Pise ou dans certaines églises d'Italie, sont inspirés directement de l'observation de ruines romaines ou de tombes de personnages importants. Donc je dirais qu'au Moyen-Âge, il y a cohabitation. Alors qu'à partir du début du XIVe siècle, XVe siècle, il y a plus qu'une cohabitation, il y a une réception, une récupération de l'art antique. Avec ce programme, pour comprendre les écritures, il faut établir une critique des textes. Pour comprendre les images, il faut établir une critique des images. Et cette idée-là, elle n'est pas seulement une idée occidentale, elle vient de Byzance. De la même manière que la chute de Constantinople a été une bénédiction pour les monastères et les évêchés italiens parce que des flots de manuscrits sont arrivés à Venise et à Florence avec les exilés. De la même manière, un peu du savoir-faire antiquaire des Romains qui a perduré dans le monde byzantin vient enrichir la vision des ruines des hommes du XIVe, XVe siècle, comme en particulier de celui qui a réinventé le grec ancien en Italie, Manuel Chrysolaras, qui a écrit un petit essai merveilleux sur le rôle des sculptures et le rôle des monuments dans la conception du passé.
Les artistes jouent un rôle important à cette époque. Je pense notamment à Piranèse, que vous avez beaucoup étudié.
Oui, alors là, on enjambe très, très vite. Il y a toute la Renaissance italienne et tous les grands maîtres de la Renaissance vont s'intéresser aux ruines et les représenter. Donc, cette efflorescence des images de ruines est typique du XVe et du XVIe siècle. Et on a d'innombrables tableaux qui prennent comme composition la mort du Christ, le Christ dans les ruines, ou des grands événements de l'histoire sacrée. Tout cet engouement artistique qu'on trouve chez tous les grands maîtres de la Renaissance italienne, il va confluer au XVIIe et au XVIIIe siècle vers une nouvelle vision des ruines qui déplace leur réception de l'histoire sainte à l'histoire tout court, ou même je dirais, au sentiment du passé. Et chez Hubert Robert, dans la peinture, chez Piranesi, dans la gravure, c'est évident. C'est-à-dire que brusquement, on a pris conscience que la figure des ruines était aussi importante que l'histoire des ruines, qu'il ne fallait pas se contenter de mots pour les décrire, mais qu'il fallait les dessiner et les graver. Et ça, c'est une invention de la Renaissance. Avant le XVe siècle, il y avait des antiquaires dans le monde arabe, dans le monde chinois, dans l'Amérique ancienne et médiévale, mais on ne représentait pas les ruines. Et Piranèse est, je dirais, par la force de ses gravures, est l'homme du dépassement des ruines par elles-mêmes.
C'est un changement fondamental qui se passe à cette époque.
Voilà, c'est à cette époque, donc avec les Lumières, on découvre, je vous ai fait part tout à l'heure de la réflexion de Pausanias. Nous, les Grecs, on regarde plus les antiquités des autres que les nôtres. Donc c'est cette idée de la différence dans des régimes de ruines, des régimes d'observation. Eh bien, elle s'enrichit et se complète à travers une idée qui va dominer toute la seconde partie du XVIIIe siècle et que Diderot va exprimer magnifiquement, qui est celle de l'universalité des ruines. Diderot dit d'abord qu'il y a deux types d'antiquités, les antiquités de la nature et les antiquités des hommes. Et pourtant, celles-ci se mêlent parce que les hommes vivent dans des paysages que la nature a déjà impressionnés. Et si, dit-il, moi-même, je me penche sur les ruines, je veux être seul pour mieux les comprendre et me remémorer les épisodes de ma vie en même temps que je repasse ceux de l'histoire. Et donc cette idée que dans tout homme, il y a un admirateur des ruines, que dans toute société, il y a des ruines et qui font sens, ça, c'est une idée qui est élaborée par Diderot et qu'on retrouve chez le ruiniste le plus célèbre du XVIIIe siècle, qui est Volney, qui s'inspire d'ailleurs très largement de Diderot.
C'est cet aspect méditatif des ruines dont nous avons l'habitude, qui fait par exemple réfléchir à la brièveté de la vie. En réalité, il est relativement récent.
Je ne dirais pas ça. Il devient un thème littéraire extrêmement répandu et un thème poétique et pictural extrêmement répandu. Mais quand Scipion regarde la chute de Carthage, quand Hildebert de Lavardin regarde s'écrouler Rome, quand l'un des tout premiers poètes d'avant l'islam s'interroge sur les traces du passé, il y a déjà des éléments de cette mélancolie. Sauf que fin 17e, début du 18e siècle en Europe, c'est devenu une catégorie commune. Alors que dans le monde arabo-musulman, comme dans le monde chinois, ces catégories sont plutôt le reflet de classes très aisées et de la culture dominante. Même si la culture dominante est évidemment porteuse de valeurs des ruines aussi en Occident. Mais je dirais la couche des lettrés est infiniment plus importante et l'Europe est un bassin de réflexion beaucoup plus important que ne le sont les villes de Syrie ancienne, le Caire ou Carthage.
C'est pour cette raison que vous parlez de conscience universelle et que vous arrêtez ce livre aux Lumières.
Voilà. Je pense qu'à partir du moment où Volney explique que les ruines sont des justicières, parce qu'elles illustrent le bonheur et le malheur des peuples, et que la violence qui est faite au peuple s'incarne sans aucun voile dans le luxe et l'ampleur des ruines. Donc les ruines sont l'index d'un certain état de culture, mais elles révèlent aussi un message politique. Et c'est ce message-là qui est présent aussi chez Winckelmann dans l'idée que l'art est le produit de la liberté et que si la liberté n'existe pas, le grand art ne peut pas exister. Donc, il y a une capitalisation politique des ruines qui se développe à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dont, par exemple, Mercier, le polygraphe du XVIIIe siècle, l'auteur des descriptions des rues de Paris, Louis-Sébastien de Mercier, donne un exemple extraordinaire quand il écrit « Paris en 2440 ». Il imagine qu'un homme du siècle de Louis XVI se transporte en 5 siècles plus tard dans le futur et se réveille dans ce nouveau Paris. Et il demande où est Versailles. Et on lui dit, oh, il faut cheminer un peu. Et il arrive devant un tas de ruines. Il arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un vieillard qui est là. Il demande au vieillard, mais pouvez-vous m'expliquer ce qui est arrivé? Il dit, voilà ce qui arrive quand un roi n'est pas soucieux du bien-être de ses sujets et qu'il se laisse emporter dans des travaux aussi somptueux qui assèchent son trésor et que ses successeurs ne seront pas capables de maintenir. Et donc, ébahi, le visiteur lui demande « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» Il dit « Je suis Louis XIV, condamné par le sort à expier mes péchés en jouant les guides sur les ruines du château de Versailles. »
Eh bien, c'est sur les ruines du château de Versailles que nous vous laissons à la Schnapp. Je rappelle le titre de votre livre « Une histoire universelle des ruines, des origines aux Lumières », et c'est aux éditions du Seuil. À bientôt.
Merci.
Thank you.